Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec vos rendez-vous du samedi. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du week-end autour de la mémoire, de l'histoire, de l'oubli, voire de l'amnésie. L'espace public est saturé de références historiques, de mots valises, de mots qui empêchent parfois la discussion, comme si nous avions perdu l'art du débat démocratique. Et de l'autre côté, on veut effacer, ne plus employer certaines expressions, certaines références. Nous y reviendrons tout à l'heure avec notre invité. Il est historien, spécialiste de l'histoire de l'immigration et de l'histoire sociale. Gérard Noiriel viendra nous rejoindre d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Et pour commencer le duel.
I can announce that we will abolish the Dublin regulation and we will replace it with a new European migration governance system and it will have a new strong solidarity mechanism.
C'était la voix d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'était mercredi lors de son discours sur l'état de l'Union européenne. La présidente de la Commission a donc annoncé vouloir non seulement abolir le règlement de Dublin, mais elle faisait un grand tour d'horizon des grands projets de l'Union européenne pour les années à venir. Gilles voulait y revenir. Est-ce que c'était un moment important? C'était la première fois qu'elle prononçait son discours sur l'état de l'Union. Est-ce qu'on en retient quelque chose qui fera date?
D'abord, c'est bien d'en parler. La question européenne est très largement absente des médias. La Fondation Jaurès avait fait il y a un an une étude qui montrait que sur l'ensemble des journaux télévisés de l'année, il y avait moins de 3% des budgets, des sujets qui étaient consacrés à l'Europe. Donc, c'est bien d'en parler. A fortiori, lorsqu'il s'agit du premier discours sur l'état de l'Union, qui trace des perspectives pour les 5 prochaines années pour la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Moi, j'ai trouvé positif et même assez largement positif ce discours parce que c'est, je trouve, une Europe qui commence à se penser comme une puissance. Ursula von der Leyen avait dit « je veux une Europe géopolitique ». Je trouve qu'on a les premiers pas dans cette direction avec une Europe qui parle de manière plus ferme avec la Turquie, avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis et qui essaye de se doter des moyens de cette puissance. C'est vrai sur le plan numérique avec par exemple l'idée d'un cloud européen. C'est vrai sur la question de la santé avec la question de stocks stratégiques. C'est vrai sur la question environnementale avec l'idée d'une taxe carbone aux frontières. Et par ailleurs, je trouve aussi positif le fait que ce soit une Europe qui essaye d'être un exemple pour le reste du monde.
Un exemple.
Un exemple. Là aussi, je reprends la question démocratique, la question des droits de l'homme, y compris en son propre sein, avec la proposition de passer à la majorité qualifiée sur ces sujets-là. Et surtout, c'est sans doute le plus important, sur la question environnementale. L'Europe s'était déjà fixée comme objectif la neutralité carbone en 2050. Elle hausse ses ambitions à plus court terme, avec un objectif de réduction de 55% de ses émissions de CO2 d'ici 2030, en axant une partie importante de son plan de relance. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt positif. Évidemment, il y a Dublin aussi dont on va parler. Il n'y a pas que du positif, mais ça, c'est positif.
Natacha.
Je pense qu'on est, en fait, quand on écoute ce discours, à un moment de tension dans l'histoire de l'Europe, et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. En effet, il y a cette dimension dont parle Gilles, c'est-à-dire, que j'appellerais moi une prise de conscience, enfin, de la nécessité pour l'Union européenne de peser et de garantir l'indépendance de ses citoyens dans un monde où ils sont, au contraire, de la chair à pâter pour les différents impérialismes à la fois commerciaux et géostratégiques. Évidemment, Ursula von der Leyen évite dans ce discours les sujets qui fâchent, ceux qui posent problème. C'est-à-dire que l'Europe commence à se penser comme une puissance, c'est une chose. Il y a des freins et des freins structurels. Et ces freins structurels, pour l'instant, on n'en voit pas la fin. Ne serait-ce que le fait qu'il existe au sein de l'Union européenne des pays qui peuvent détourner les règles, constituer des paradis fiscaux, obtenir des ristournes, notamment sur les plans de relance, pour des raisons qui sont des raisons de, en fait, de rapport de force, là, mettent à mal le beau discours d'Ursula von der Leyen. Et c'est vrai aussi en matière migratoire, où là, on a, par essence, l'absence totale de solidarité des différents pays européens. Ce qui pose la question, d'ailleurs, de la façon dont cette Europe s'organise. Parce que l'idée de passer sur certains points à la majorité qualifiée pour éviter les freins de l'unanimité, c'est une chose. Mais la question est de savoir s'il faut jouer de cette manière-là ou jouer par le biais de coopération renforcée. Et je pense à la question migratoire là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a des pays qui refusent de recevoir des migrants. Et face à cela, on en a d'autres qui sont dans une hypocrisie totale. C'est par exemple la France. C'est même l'Allemagne, dans une certaine mesure, qui prononce des grands discours à l'international, mais qui pourtant ont freiné des cas de fer depuis plusieurs années sur cette question du règlement de Dublin, parce qu'en fait, la conversion d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel au fait qu'il faille en finir avec ce règlement totalement aberrant, c'est assez récent.
Il faut rappeler le principe, d'ailleurs, du règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, c'est celui qui confie la responsabilité de l'accueil des demandeurs d'asile au premier pays d'entrée dans l'Union. Autrement dit, si un exilé arrive en Europe par la Grèce et qu'il s'installe ensuite en France, il doit malgré tout faire sa demande d'asile en Grèce.
En gros, ça veut dire les Grecs, les Italiens, débrouillez-vous.
Ou les Italiens, exactement. Et la France, donc le pays où il est, n'est en théorie pas tenu d'enregistrer sa demande.
Non, ça, c'est le règlement de Dublin. Et la France renvoie des gens à la frontière italienne qui, évidemment, reviennent juste après. Tout ça est aberrant. Et donc, la question est celle de savoir comment, à l'échelle du continent, on décide de traiter rapidement les demandes d'asile. Comment on fait pour que les gens soient dans des conditions décentes? Parce que l'incendie du camp de Moria nous a montré l'horreur du traitement des migrants par l'Union européenne. Enfin, tout ça est indigne. Et après, on a beau jeu de traiter de racistes les habitants des îles grecques qui n'en peuvent plus. Je pense que le problème n'est pas là.
Gilles,
deux remarques sur la méthode. Ursula von der Leyen n'a pas vraiment, elle a évité un certain nombre de problèmes. Par exemple, tout ce qui concerne le plan de relance est assez peu présent dans son discours. L'autre difficulté, c'est plutôt une difficulté pour moi de mise en œuvre. Est-ce que la Commission va avoir la capacité à les mener à bien? Et c'est intéressant, là, si on réfléchit aux critiques qui sont souvent adressées à l'Europe, en l'espèce, si elle n'y arrive pas, c'est souvent parce qu'il y a un défaut d'Europe plutôt qu'un excès d'Europe, un défaut de commission plutôt qu'un excès de commission. Parce que si elle n'y arrive pas, le plus souvent, ça sera de la responsabilité des États, et on le voit sur la question migratoire. Ça fait des années que la Commission européenne dit « Dublin, ça ne fonctionne pas ». Et de fait, Dublin, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, on l'a vu en 2015, où on a eu en une année plus d'un million et demi, pratiquement un million et demi de demandeurs d'asile. On le voit moins aujourd'hui parce que il y a plus de deux fois moins de demandes, mais ce système ne marche pas. Il ne marche pas pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'il y a des pays, notamment les pays méditerranéens, qui,
la Grèce, l'Italie, Malte,
qui sont submergés par des demandes qu'ils n'arrivent pas à traiter. Ça ne marche pas non plus parce que les mécanismes que l'on a essayé de mettre en place, notamment les quotas de répartition entre les pays, n'ont pas été acceptés. Ça ne marche pas encore parce que, selon le pays dans lequel vous êtes, et même selon la période dans le même pays, ce ne sont pas les mêmes critères pour l'asile qui sont appliqués. Donc, remettre à plat la politique d'asile européenne, je pense que c'est une nécessité. Et dans son discours, Ursula von der Leyen définit, je crois, une politique qui est très équilibrée, qui ressemble beaucoup à l'éditorial de Natacha Polony dans Marianne. Convergence peut-être
que j'avais écrit avant d'avoir lu le discours.
Reste une dernière question. Est-ce qu'il faut essayer de faire ça à 27, ou est-ce qu'il faut une coopération renforcée, c'est-à-dire qu'un petit groupe de pays se mette d'accord? Je pense que si on peut le faire à 27, c'est beaucoup mieux. Il y a un certain nombre de pays qui acceptent d'accueillir. Ceux qui n'acceptent pas d'accueillir, eh bien, ils doivent compenser financièrement. C'est ce qui est commencé à se mettre en place. C'est pas idéal, mais ça serait mieux que l'ensemble participe plutôt que un certain nombre de pays. Si on leur dit, on va se débrouiller sans vous, ils seront très contents.
Natacha, encore un mot et on va tourner pour passer à un autre chapitre.
Oui, je pense qu'en effet, il faut, mais ce qu'il faut penser, c'est une façon d'obliger à participer sans donner l'impression que l'Europe devient un carcan qui uniformise, parce que sinon, on va perdre définitivement les pays d'Europe centrale, et je ne pense pas qu'on y gagne. Il me semble que la question, on en revient toujours à cette même question, le rapport entre l'Union européenne en temps, quantité, la Commission et les États membres. Le problème n'est pas que ce soit la faute des États membres parce qu'il y a un défaut d'Europe. Le problème, je pense, est que petit à petit, on a mal construit l'Europe. Et que donc, en effet, la seule façon, c'est d'avancer sur certains domaines. Par exemple, le rapport entre le budget et la monnaie me semble un des éléments cruciaux. Et, et si les États rechignent, de même que s'ils rechignent sur les questions migratoires, c'est pas par égoïsme national, c'est par incapacité à mener une politique qui rassure leur population tout en maintenant les principes essentiels, notamment le droit d'asile, qui est un principe imprescriptible. Et là, le fait d'être toujours dans l'hypocrisie et le non-dit, on est en train de fragiliser le droit d'asile qui est un des éléments fondateurs de l'identité européenne. Je pense que c'est absolument dramatique.
Le duel continue et on revient en France.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est la huitième vague, la huitième année que l'on découvre le sondage Fracture française mené pour Le Monde par Ipsos Soprasteria en partenariat avec le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. Une grande étude unique qui est menée sur un échantillon de 1030 personnes. Gilles, je ne me trompe pas, et c'est un outil absolument unique pour mesurer notamment le moral des Français, les valeurs des Français et des Françaises, les rapports de force politiques et idéologiques. Et à moins d'un an et demi maintenant de l'élection présidentielle, Gilles, qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'état d'esprit, les rapports de force idéologiques dans le pays ?
Franchement, c'est une étude qui vaut le coup d'être lue. Elle est en accès gratuit, évidemment, sur le site de la Fondation Jean Jaurès, parce que c'est l'étude la plus transversale. Ça donne vraiment, sur l'ensemble des questions, un aperçu de ce qu'est l'état d'esprit des Français. Ce que je retiens de cette vague, c'est un, on a une société qui continue à être une société sous tension. On a beaucoup parlé des résultats sur la peine de mort, avec 55% de Français qui souhaitaient son rétablissement. Mais au-delà même de ça, quand on voit la demande d'autorité, la demande de chef, l'importance des valeurs du passé, on voit cette tension qui traverse la société française. Deuxième point, on a une politique qui continue à être en déstructuration. En apparence, il y a des regroupements qui peuvent se faire. J'ai écrit dans Le Monde un papier qui montre que sur le plan des valeurs, des représentations, des opinions, les sympathisants socialistes et les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts sont désormais extrêmement proches. On peut presque faire de manière plus surprenante encore le même exercice s'agissant des sympathisants des Républicains et sur beaucoup de sujets des sympathisants du Rassemblement National. En réalité, on a un enchevêtrement de clivage où, selon les sujets, eh bien, ce ne sont jamais les mêmes clivages qui sont à l'heure. Et enfin, il y a un certain nombre de choses que je trouve positives. Les questions sur l'environnement montrent la volonté des Français que des mesures soient prises, y compris si ça vient affecter leur mode de vie. Quand ça touche à leur finance.
Mais pas leur niveau de vie.
Quand ça touche à la finance, moins. Mais quand ça touche à leur mode de vie, c'est quelque chose de très profond, hein, votre mode de vie. Il faudrait maintenant savoir exactement ce à quoi ils sont prêts à renoncer. Mais ça, c'est massif. La volonté de redistribution des plus riches vers les plus pauvres reste importante. La volonté que l'État intervienne davantage pour réguler l'économie est plus importante. Évidemment, il y a un effet de la crise. On voit que les questions relatives au féminisme, il y a une sensibilité aussi qui n'existait peut-être sans doute dans le pays il y a quelques années. Donc, je trouve qu'il n'y a pas que du négatif dans cette enquête.
Natacha, qu'est-ce que vous en retenez ?
Moi, j'en retiens tout de même ma perplexité à la fois face à cette enquête, même si en effet elle est passionnante, et justement ma perplexité vient de mon intérêt pour cette enquête. Alors là, en revanche, on va dire mon scepticisme face non pas à l'enquête, mais aux interprétations de cette enquête.
Exemple.
Et le Monde en particulier, le journal Le Monde, publie cette enquête tous les ans, la commente, et les commentaires sont tout de même à mourir de rire. C'est-à-dire que le commentaire, en toute objectivité de la part du journal de référence, sur, par exemple, c'est dans un article sur l'évolution de l'électorat La République En Marche, et on a des phrases du genre l'électorat de La République En Marche a viré un petit peu plus vers l'étatisme, alors que Emmanuel Macron, dans sa campagne, était pour l'ouverture contre les autres partis qui défendaient le chauvinisme redistributif. Alors moi, quand je lis une phrase comme le chauvinisme redistributif, je pleure de rire. Mais bon, parce que tout ça ne veut rien dire et qu'on est dans l'idéologie totale, mais sans l'assumer. Parce que moi, ça ne me dérange pas l'idéologie, mais il faut le dire. Donc, en fait, il y a dans les interprétations quelque chose qui pose problème. Par exemple, le fait de considérer forcément comme un paradoxe le fait qu'une majorité de Français dans cette étude dit « il y a du racisme en France », mais les commentateurs en général, et le monde en particulier, considèrent que c'est paradoxal puisqu'ils sont une majorité aussi à dire « il y a trop d'étrangers en France ». Or, toute la question est de savoir ce que ça veut dire, trop d'étrangers. Moi, c'est une question que je trouve très complexe. Ça, parce que ça dépend où on habite, déjà, on n'a pas forcément la même perception. Qu'est-ce que ça veut dire trop par rapport à quoi? Il y a ceux qui considèrent que de toute façon, il n'en faut pas du tout, et ceux qui se disent, pour pouvoir intégrer correctement, recevoir correctement, il faudrait limiter les entrées. C'est pas du tout les mêmes. On les met tous dans le même sac et on dit c'est paradoxal parce qu'à côté de ça, ils sont plutôt contre le racisme. Vous voyez, c'est donc dans les interprétations de ce genre d'études qu'il y a un souci. Sur la notion de chef, c'est la même chose. Quand on pose la question, pensez-vous qu'il faudrait un vrai chef, etc.
Mais 82% des personnes interrogées estiment que l'on a besoin d'un vrai chef. Mais en France,
mais ils mettent pas du tout la même chose sous ce terme chef et c'est bien le problème. Je ne pense pas qu'un électeur des Républicains nostalgiques de Nicolas Sarkozy mettent la même chose sous ce terme qu'un électeur de la France insoumise qui pense tout de suite à Jean-Luc Mélenchon quand il pense au mot chef. C'est pas exactement la même chose.
Gilles Finkelstein.
D'abord, juste une précision. Le papier que vous évoquez dans Le Monde, Natacha, n'est pas un papier du Monde, d'un journaliste du Monde, c'est un papier de oui. Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, qui est donc
le centre d'études de la vie politique de Sciences Po.
Voilà, une des institutions qui a...
C'est vrai, pardon. Bon, erreur de ma part, en effet.
Sur l'interprétation qui est faite de l'enquête, moi, je suis assez sensible à une erreur d'interprétation, qui est, on a beaucoup lu cette enquête à l'aune de la droitisation de la société. Ce que, pour partie, je l'ai évoqué moi-même, elle exprime sur les valeurs, elle exprime aussi quand on regarde le positionnement des Français. Mais il ne faut pas tout mélanger. Par exemple, quand on dit que, quand on regarde la hiérarchie des priorités des Français, quand il y a une progression des inquiétudes sur les questions de délinquance,
oui.
Ce n'est pas nécessairement une droitisation de la société. Ça, c'est les milieux populaires peuvent être sensibles à ces questions-là. Beaucoup de Français qui le vivent au quotidien peuvent être sensibles à ces questions-là sans que ça nécessairement traduise une droitisation de la société. En revanche, sur la question de est-ce qu'il y a trop d'étrangers, pas assez d'étrangers, je trouve que la question est relativement simple et que les clivages qu'elle traduit depuis de nombreuses années sont des clivages qui sont là aussi très simples. En gros, c'est une des questions sur lesquelles le clivage entre les sympathisants de gauche et les sympathisants de droite est assez constant. Le résultat n'est pas constant, c'est-à-dire que la gauche, les sympathisants de gauche peuvent davantage qu'hier répondre qu'il y a trop d'étrangers, mais en revanche, de manière continue, les sympathisants de gauche sont moins nombreux à répondre qu'il y a trop d'étrangers que les sympathisants de droite. Donc la question n'est pas si compliquée, d'autant qu'il y a d'autres questions sur l'immigration qui peuvent permettre de répondre de manière plus précise à vos
Gilles,
questions.
Je dis qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les interprétations me semblent problématiques. En revanche, sur d'autres, moi il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Une question aussi bête que la mondialisation est-elle un bienfait pour la France? On ne répond pas par oui ou par non.
Et pourtant, il fallait répondre par oui ou par non. Et en l'occurrence,
sur ce genre de
la
questions.
Très grande majorité des Français pensent que la mondialisation est plutôt néfaste. Mais il y a un sujet, une question qui a retenu l'attention de beaucoup de commentateurs et de journalistes. C'est plus de la moitié de la population, 55%, qui souhaitent le rétablissement de la peine de mort. Et c'est le niveau le plus haut depuis maintenant 8 ans, le plus haut niveau de réponse en ce sens. Comment l'interpréter et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, Gilles?
C'est la première fois qu'un chiffre retient à ce point l'attention et que tous les résultats de l'enquête sont concentrés sur cette donnée.
Oui.
Parce que le chiffre est spectaculaire, la majorité est très nette, 55%, parce que la progression par rapport à l'année dernière est spectaculaire, c'est 11 points de plus.
C'est la première fois que la majorité des Français est favorable à le rétablissement de la peine de mort depuis le début de l'enquête, donc depuis 8 ans.
Non, ce n'est pas le cas, et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les résultats, pas seulement par rapport à l'année dernière, mais par rapport aux 8 années. On voit que ça s'inscrit dans un mouvement. On a eu déjà 2 années précédentes dans lesquelles on était une fois à 51, une fois à 52%. Mais c'est un chiffre qui est d'autant plus spectaculaire qu'il n'y a plus aucune force politique qui prône le rétablissement de la peine de mort. Évidemment, pas la gauche qui a été abolitionniste, pas la droite qui, depuis Jacques Chirac, a constitutionnalisé l'abolition de la peine de mort, et plus même l'extrême droite, puisque c'était nouveau dans sa campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen n'était plus pour un référendum sur la peine de mort, mais elle était pour la perpétuité réelle. Et donc c'est d'autant plus significatif que cette question continue de traverser la société, même si peut-être qu'en répondant à cette question-là, elle répond sur une préoccupation qui est plus large, sur les questions que j'évoquais, d'inquiétude sur le niveau de la délinquance, de demande d'autorité, etc., etc.
Encore un mot, Natacha ?
Oui, encore un mot sur la question précédente que Gilles évoquait, la question de l'interprétation sur la droitisation de la société. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des études surgir sur l'idée que la société se droitise. De fait, la question de la peine de mort, on peut appeler ça une droitisation, je l'interprète comme ça, et je pense que c'est assez inquiétant et ça révèle des problèmes beaucoup plus profonds. Pour autant, quand on explique à longueur de temps que la société se droitise sans vraiment expliquer ce qu'on entend par droite et gauche, il y a un problème. Une récente étude m'a fait bondir qui disait qu'en gros 16% des gens répondaient qu'ils se situaient clairement à gauche.
On a reposé la même question dans cette enquête, on n'a pas du tout les mêmes chiffres.
Je m'en doute. Ah oui. Mais pour moi, cette question-là est absurde, parce que là encore, nous voyons bien depuis plusieurs années monter un débat sur ce que signifie la droite et la gauche. Mais à force que certains expliquent qu'en gros, personne n'est de gauche, parce que dès qu'on s'inquiète des questions de délinquance, de sécurité, on n'est plus de gauche, on a forcément basculé à droite, c'est sûr qu'il n'y a plus personne dans les citoyens qui finit par se dire de gauche. Alors que pourtant, je suis persuadée, et quand on regarde cette étude, on s'en aperçoit, qu'il y a des préoccupations sociales, des questions sur la redistribution, qui prouvent qu'il y a une aspiration à ce qu'on appelle normalement la gauche.
Encore un mot, Gilles.
Ouais, juste un mot pour répondre à ça, parce que je crois que c'est important. C'est la raison pour laquelle on pose plusieurs questions sur le clivage gauche-droite dans l'enquête. On leur demande à la fois, est-ce que vous considérez que le clivage est dépassé, ou est-ce que il permet toujours de comprendre la société? Et là, 70% des Français disent c'est dépassé. Mais lorsque vous leur posez la question, est-ce que vous diriez qu'il y a de vraies différences entre la gauche et la droite? Vous avez 2/3 des Français quasiment qui disent oui. Lorsque vous leur demandez, est-ce que vous pouvez vous positionner sur une échelle gauche-droite, 0 vous êtes très à gauche, 10 vous êtes très à droite, l'immense majorité d'entre eux se classent, pas tous, hein. Il y en a qui disent non, je ne peux pas me classer, ou qui se positionnent au milieu, 5, qui est souvent un refus du clivage. Et puis on a posé, je termine par là, une question, c'est comment vous vous définissez d'abord? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme du peuple? Est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes écologiste? Est-ce que vous êtes centriste, etc. Et ça, c'est peut-être plus riche encore, et on voit que, en gros, on a une société qui se, d'abord, les gens se disent, moi, je suis un homme du peuple. Et puis après, ça se répartit entre, disons, un bon bout de gauche, un bon bout de droite, un bon bout écologiste et un bon bout centriste.
Voilà. Donc pas,
donc si pas de droite, pas de droitisation majeure de la société, c'est
alors,
ça qui.
Si droitisation sur un point, c'est cela. Quand on le regarde dans la durée, c'est la manière dont les Français s'auto-positionnent sur l'axe gauche-droite. Là, sur 10 ans, sur 15 ans, la droitisation, oui, le point moyen est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était.
Et l'enquête sur les fractures françaises est donc en ligne et gratuitement sur le site de la Fondation Jean Jaurès.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
C'était bien sûr le président de la République devant une centaine de membres de ce qu'on appelle la French Tech ce lundi. Je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. C'était un discours sur l'innovation, notamment sur la 5G. C'était une manière de décrédibiliser la parole écologiste ou de se moquer du débat pour ou contre la 5G qui s'est largement diffusé dans les médias, Natacha ?
Disons que il y a là une phrase qui a été reprise et c'était le but, et ça s'appelle faire de la politique au sens pas forcément le plus noble du terme, c'est-à-dire en réduisant un peu le sujet. Et en le réduisant à des intérêts électoraux, puisqu'on a bien compris que le problème, c'est la montée du vote vert. Après, il y a un sujet absolument passionnant, qui est en effet la question de la 5G et les débats qui surgissent. Et je suis assez frappée dans les commentaires de voir chacun s'envoyer là aussi le mot idéologie à la figure. Vous êtes des idéologues, c'est toujours celui d'en face l'idéologue, mais... Oui, il y a de l'idéologie, et là, pour le coup, au sens noble. C'est-à-dire que c'est un débat sur une conception qu'on a du progrès, sur une conception qu'on a de la démocratie, parce que c'est un, en effet une évolution majeure. On a le droit d'émettre des doutes, on a le droit d'en débattre, sans que les technologies ne s'imposent à nous comme un fait. Je pense que l'un des problèmes...
Comment ça ?
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une technologie est en train de s'imposer qu'on ne peut pas discuter des dangers ou pas de cette technologie. Pour ma part, je pense que pour l'instant, on n'a pas de preuve d'un problème sur la santé et que le problème n'est pas tellement là. Le problème se situe d'abord sur la question écologique. Et vous avez en effet, par exemple, Julien Bayou qui explique que c'est un problème écologique majeur, que ça va être une catastrophe écologique. Les autres en face répondent, mais pas du tout, parce que ça va permettre que les appareils consomment moins d'énergie. Il existe un paradoxe en économie qui s'appelle le paradoxe de Jevons, du nom d'un économiste, et qui explique qu'à chaque fois qu'on apporte une nouvelle technologie qui doit réduire la consommation d'énergie, en fait, ça aboutit à une explosion de la consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle technologie modifie les usages et les facilite. Et du coup, permet au contraire qu'on fasse évoluer les usages. Et on peut anticiper que la 5G, ça va être ça. Donc en plus que ça va obliger à changer énormément d'appareils, donc là aussi un gâchis monumental. Pour autant, faut-il être réticent ou faut-il s'y lancer avec des valeurs et des conceptions qui sont les nôtres ? Et là, on en arrive à la question qui pour moi est cruciale, qui est l'indépendance. C'est-à-dire, l'Europe a-t-elle les moyens de penser la 5G avec ses règles à elle, c'est-à-dire la protection des données, c'est-à-dire des technologies qui viennent d'Europe ? Et c'est toute la question, la réponse pour l'instant est non, c'est là le vrai problème.
Gilles Finkelstein.
Vous vous souvenez, il y a deux semaines, on avait eu un débat sur l'incident qu'il y avait eu entre Emmanuel Macron et un journaliste, Georges Malbruno. Et j'avais dit, je trouvais que sur la forme, il avait tort, mais que sur le fond, il pouvait avoir raison. En l'espèce, alors même que, disons, par réflexe, je suis plutôt favorable à la 5G, je considère que cette fois-ci, il a tort et sur la manière et sur sa position. Sur la manière, vous l'avez dit, il fait, et Natacha aussi, Emmanuel Macron fait de la politique. Sa cible est une cible politique, c'est Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est la cible qu'il vise. Oui. Le problème, c'est que celle qui l'atteint, c'est l'ensemble des citoyens qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peuvent se poser cette question et qui se sentent un peu maltraités par cette formule. D'ailleurs, il faut faire...
Comme la citoyenne Natacha Polony, par exemple.
Comme la citoyenne...
Vous êtes sensibilisée ou pas ?
C'est pas que je me suis sensibilisée, c'est genre, en effet, comme Gilles, je pense que c'est une mauvaise façon de répondre.
Et alors, le hasard a fait qu'il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur les Amish. Les fameux Amish, quand j'écrivais un livre sur le temps. Alors, on peut, disons, les traiter comme ça en disant c'est ce qu'ils sont, hein. Évidemment, le refus absolu de la modernité, on se transporte à
pas
cheval.
Pas de télévision, pas de tracteur, pas même d'électricité souvent.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui est plus intéressant avec les Amish, c'est l'interaction entre le monde extérieur et le monde Amish. Parce que il y en a, il y a des Amish qui vont travailler. Et quand vous rentrez dans une maison d'un Amish, vous avez au mur deux horloges. Une horloge qui indique l'heure officielle, l'heure américaine, la fast time. Et une autre horloge qui a une demi-heure de moins, symboliquement, qui est l'heure des Amish, qui est le slow time. Et tout le jeu, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont des instances pour savoir comment on incorpore du fast time, de la modernité, dans le slow time. Et d'une certaine manière, on est face à un peu la même problématique, comment on incorpore du plus rapide encore dans un monde qui est déjà très rapide. Ce qui nous amène au débat de fond. Et là, c'est là où je trouve que il y a de très très nombreuses questions qui sont posées par ce débat sur la 5G. Il y a la question de santé, on va avoir le rapport définitif de l'Agence nationale au premier trimestre de cette année. Il y a les questions démocratiques sur les data, les données personnelles aussi. Bon, le plus important, je crois, c'est une question sociétale. C'est quels sont les usages? Pourquoi fait-on la 5G? À fois, quels sont les usages pour les individus, pour les citoyens, quels sont les usages pour les entreprises. Je trouve que le débat n'a pas été conduit jusqu'au bout. Et puis, la deuxième question qui n'a pas été, je crois, suffisamment documentée, c'est la question environnementale, à la fois sur l'impact purement du numérique. C'est une technologie qui consomme moins, mais on va consommer davantage, et sur le lien entre cette empreinte numérique et l'empreinte physique. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va faire qui vont réduire l'empreinte physique. Tout ça mérite un débat. Et je termine par ce dernier point. Devant la Convention citoyenne, le lendemain des élections municipales et de cette poussée verte, Emmanuel Macron est venu. Il a dit « Vous avez fait 149 propositions, j'ai 3 jokers. Le reste, je prends tout.
Ouais. »
Dans « Je prends tout », il y avait le moratoire d'un an pour la 5G, et je trouve que pour la crédibilité de la parole publique, je parle même pas seulement de la parole présidentielle, c'était il y a 2 mois et demi, c'est pas comme ça qu'on doit faire.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'historien Gérard Noriel.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
La mémoire, l'histoire, l'oubli, voire l'amnésie, l'espace public est saturé de références historiques, de mots valises, de mots qui pourraient susciter la discussion et qui souvent l'entravent, l'empêchent, comme les mots race, l'un de ces mots par exemple qui investissent le débat public comme si nous avions perdu l'art du débat démocratique. Pour en parler, notre invité, c'est l'un de nos grands historiens, spécialiste de l'histoire de l'immigration et de l'histoire sociale. Bonjour Gérard Noriel.
Bonjour.
Et bienvenue, il y a un an, vous publiez « Le venin dans la plume », Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part d'ombre de la République. Et nous voulions vous inviter justement pour essayer de comprendre comment vous voyez évoluer, se structurer le débat public dans un moment où on a l'impression qu'on a perdu nos repères, on a l'impression qu'il n'y a plus d'idéologie claire qui s'affronte, un camp contre un autre, mais quelque chose de diffus qui empêcherait véritablement de retrouver cet art du débat démocratique, autrement dit une éthique de la discussion, une possibilité d'échanger sur des problèmes de fond, ce que regrette souvent Natacha Polony ici à ce micro. Est-ce que pour vous aujourd'hui on peut encore faire société au sens où on pourrait encore débattre en France, Gérard Noriel?
Bonjour à tous. Oui, moi ce qui, je dirais de mon point de vue d'historien, de socio-historien, ce qui me frappe, c'est l'affaiblissement de l'autonomie de la réflexion, je dirais, savante sur ces questions-là. Sur ces questions. Moi, je me suis engagé, donc, ça fait plus de 30 ans dans des recherches. C'était au début de la montée du Front National. Donc, j'étais donc motivé par des raisons civiques.
Oui.
Mais avec l'idée qu'on avait besoin de connaissances qui se tiennent à distance des enjeux politiques. Donc, c'est dans cette perspective que j'étais proche de Pierre Bourdieu, et ce qui me frappait dans ce que disait Pierre Bourdieu, c'était ce qui était souvent mal compris, c'est la défense de l'autonomie de la recherche. Et pour moi, c'est une valeur républicaine, on pourrait y revenir, qui est souvent bafouée. Donc, quand on travaille, évidemment, si on travaille sur des sujets qui n'ont pas d'impact politique, c'est facile, mais quand on veut quand même faire de la recherche pour servir un peu à quelque chose, et qu'on s'adresse à des questions comme celle-là, comme le racisme, l'immigration, l'intégration, etc., l'espace est extrêmement réduit, quoi. Parce que, aussitôt, ce que vous dites est interprété, vous voyez, par des gens qui n'ont pas non plus la compétence que vous avez, vous, après avoir travaillé 20 ou 30 ans sur un sujet, et tout est rapatrié sur des enjeux, les enjeux politiques du moment, et il faut être dans tel camp ou dans tel camp.
Mais
c'est très difficile, ça, d'assumer.
C'est passionnant parce que vous travaillez comme historien, vous parlez comme historien, et vous vous revendiquez, justement, de Bourdieu ou de Michel Foucault, par exemple, pour qui il y avait un rôle de l'intellectuel spécifique, mais vous travaillez sur des sujets qui suscitent les passions, sur des mots qui éveillent et attisent les tensions. Est-ce que, pour vous, quand on pratique ces recherches-là, ce que vous faites sur l'immigration par exemple, c'est pas un sport de combat, comme on a pu dire que la sociologie était un sport de combat, et est-ce que ce combat-là, vous n'êtes pas en train de le perdre justement face à la constitution d'un champ médiatique où on sera toujours plus brutal, où on sera toujours plus caricatural que vous, Gérard Noriel?
Je ne sais pas si c'est un effet de l'âge, mais j'ai tendance à être d'accord avec vous, à considérer que...
C'est vraiment une question.
Oui, mais je suis très pessimiste, c'est vrai, puisque je vois que même du côté de mes amis, des gens dont je suis proche, ça devient extrêmement difficile de maintenir une réflexion autonome où les instruments de la critique, on va les porter aussi du côté des gens dont on est proche sur le plan politique.
Bien sûr.
Je suis engagé aussi. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein. On est toujours sur le fil du rasoir où la question de l'autonomie, elle est souvent difficile. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on voit aujourd'hui que ça devient extrêmement difficile, qu'il faut constamment se justifier, constamment, vous voyez, c'est... Moi, j'ai toujours dit, y compris à mes étudiants, qu'on n'avait pas vocation à devenir majoritaire, donc je sais très bien que... Mais c'est une forme de résistance. Moi, je la vois là, une résistance par rapport à cette emprise médiatique dont vous parliez. Et on voit, à partir de nos lecteurs qui nous écrivent, etc., qu'il y a quand même encore des gens qui croient à cette mission-là de l'intellectuel, oui.
Ça, c'est plutôt rassurant. Mais... Natacha, puis Gilles. Natacha Polony.
Je pense qu'il y a une des dimensions là, que vous venez d'aborder qui me semble essentielle, la question du statut, du rôle de l'intellectuel dans la société. Parce qu'en fait, Ali citait Michel Foucault et l'idée de l'intellectuel spécifique. On vient de voir la fin de la revue Le Débat. Marcel Gauchet, par exemple, explique cette fin de cette revue par une baisse générale du niveau intellectuel qui ne permet plus le véritable débat de haut niveau dans une revue comme celle-là, c'est-à-dire entre gens qui maîtrisent leur sujet, mais aussi comme instrument de médiation pour aller vers le débat politique, normalement au sein des médias. Est-ce que finalement ce n'est pas toute la chaîne qui est rompue, c'est-à-dire la chaîne des médiateurs, ceux qui doivent petit à petit apporter le savoir des spécialistes vers le débat, puisque le rôle de ce savoir est tout de même d'infuser ensuite la société et de permettre le débat démocratique.
Gérard Noyel.
Là, il faudrait prendre du temps, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de critique par rapport au débat.
Hein, je veux dire,
à la revue Le Débat.
Par rapport à la revue Le Débat, ou si vous voulez, pour ce que j'appelle moi les intellectuels de gouvernement, c'est une phrase de Peggy, enfin je ne veux pas trop entrer dans les détails, il faudrait creuser ça, mais c'est la question de la problématisation. C'est ça qui est un enjeu majeur. Et là, on peut rejoindre Foucault, si vous voulez, c'est la manière de constituer les problèmes. Donc, une revue comme Le Débat ou comme Gauchet, ce sont des gens qui reprennent les problèmes tels qu'ils sont constitués dans l'actualité pour les commenter de manière intelligente. Enfin, c'est pas évidemment à ce niveau-là que ça se situe. Alors que moi, je pense que l'autonomie de la science vise à problématiser autrement. C'est ce que Durkheim appelle la construction de l'objet.
Oui.
Donc, vous voyez, là, il y a une différence qui permet de dire, par rapport à des questions comme, je sais pas, le voile islamique, etc., en disant, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'actualité. Mais moi, en tant que chercheur, je positionne les questions autrement. Depuis 30 ans que je travaille sur l'immigration, je me suis toujours heurté à ça. Toujours, en disant, mais attention, l'intégration, moi je le prends pas au sens journalistique, je le prends au sens sociologique, tel Durkheim a essayé de l'analyser. Vous voyez, on est toujours dans le...
Avec donc, le temps long, la notion en remontant à la Troisième République, par exemple.
Voilà, c'est ça.
Oui,
et la notion d'intellectuel,
c'est...
vous comprenez, il y a plusieurs sens.
C'est ce que je vous disais, mais il y a des allers-retours, parce que l'autonomie n'est pas non plus le détachement total.
Non, voilà,
c'est alors justement, c'est ça ma question. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par par l'autonomie de la réflexion savante, et est-ce que une des difficultés à laquelle sont confrontés les intellectuels aujourd'hui n'est-elle pas précisément leur incorporation dans le débat public? J'entends par là à la fois les mots ou les problématiques qui sont ceux de la réflexion savante et qui peuvent être trop décalés par rapport au débat public pour pouvoir être saisis, mais aussi l'évolution du débat public avec les problèmes à la fois des supports et le problème surtout, je crois pour un intellectuel, de celui du temps d'expression et de cette tendance à ce que vous appelez la scandalisation du débat public. Et donc est-ce que le problème c'est pas l'incorporation de la réflexion savante dans le débat public?
Oui, moi, si je vois mon expérience, je dirais, on voit qu'on est de plus en plus sollicité aujourd'hui, d'un certain côté, donc il y a un hommage rendu. Mais le champ même des sciences sociales, si je me limite aux sciences sociales, il est aussi contradictoire. On n'est pas tous d'accord, et c'est l'un des grands problèmes pour moi d'ailleurs. L'incapacité de créer ce que Durkheim ou Bourdieu ou Foucault appelaient un intellectuel collectif. C'est-à-dire une capacité de résister collectivement. Or, c'est le grand drame de nos disciplines doctrine, c'est
pourquoi
l'atomisation.
Pourquoi le grand drame?
Parce que si on pèserait plus dans l'espace public, si on réagissait collectivement, vous comprenez? Mais là, effectivement, on peut toujours nous sortir un autre universitaire qui est aussi éminent que nous et qui dit exactement le contraire.
Bien sûr, donc, c'est Gérard Noriel. Je prends un exemple. Vous avez écrit donc sur Éric Zemmour ou la zemmourisation des esprits. Vous l'avez comparé à un autre intellectuel de la fin du 19e, à un journaliste polémiste antisémite, Édouard Drumont. Là, vous êtes en train de travailler sur la race et on a très envie, on a hâte de lire ce que vous allez écrire sur la race et le racisme. Mais vous voyez bien que ne serait-ce qu'employer ce mot, le mettre sur une couverture, essayer de l'aborder dans sa complexité, du coup, devient très, très, très difficile. Voire impossible. Parce
là,
que...
j'en suis bien convaincu, oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire, alors?
Non, bien sûr, il faut le faire. Mais comment, du coup, manipuler un mot comme celui-là dans le débat public? Race, il y a ceux qui disent « nous ne voulons pas être racisés ». Il y en a d'autres qui disent « la race n'existe pas, il faut arrêter même de parler de différence de couleur de peau », par exemple. Il y a la « cancel culture », comme on appelle cette intolérance à l'égard d'opinions divergentes qui fait que, eh bien, la censure s'applique crée même à des films, à des statues, à des marques, que sais-je. Oui, comment tout simplement essayer de faire le travail de réflexion nécessaire sur des objets qui sont polémiques par nature, Gérard Noriel?
Il y a des procédés qui sont les procédés de des sciences sociales. Par exemple, dans ce livre, on déconstruit la catégorie race. Moi, par exemple, j'ai fait toute une partie, parce qu'on l'a écrit à deux avec... On est en train de l'écrire à deux avec Stéphane Beau, sociologue. Donc, je fais toute une analyse du mot, de la naissance du mot, de comment il a été approprié, les enjeux, en montrant justement que c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser de façon neutre, parce que ça a toujours été un enjeu polémique, et qui renvoie à l'histoire des intellectuels, même, je dirais, depuis les Lumières, hein, quasiment. Donc, il y a toute cette analyse-là qu'on peut faire. Et puis, on peut demander aussi aux lecteurs de prendre un peu de recul, c'est quand même la vocation, notamment, normalement, de la science, de l'intelligence. Prenez un recul par rapport à ce que vous croyez, par rapport à vos propres convictions, pour faire un travail d'analyse et peut-être d'autocritique aussi. C'est pas impossible quand même, non, aujourd'hui.
Natacha ?
Est-ce qu'il n'y a pas eu coïncidence dans l'histoire des idées récentes entre la position de Michel Foucault sur donc l'autonomie en effet du savoir et l'idée de l'intellectuel spécifique, le moment où pendant ce temps-là la sphère médiatique devient soumise éminemment et plus qu'avant à des impératifs qui sont des impératifs commerciaux, je veux dire, certes, ça a toujours été le problème de la presse. En revanche, tous les autres outils de diffusion des savoirs, et en particulier les médias audiovisuels, ont été de plus en plus soumis à ça, ce qui là aussi modifie la façon dont on peut faire passer la parole et le savoir au sein de ces médias. Et enfin, l'abandon de ce projet qui me semble remonter à l'humanisme puis aux Lumières, de l'idée de l'honnête homme essayant de se nourrir sa position de citoyen par l'accès à ses savoirs. Et c'est là où la question de l'intellectuel est importante, puisque le fait de maintenir cette idée qu'il faut des intellectuels spécifiques se comprend parfaitement, mais n'y a-t-il pas au contraire besoin aussi d'une vision qui accepte d'être synthétique, d'être globale, et qui permettrait justement d'éviter ce morcellement, cet individualisme, cette destruction d'un savoir partagé dans la société?
Gérard Noriel.
Oui, moi j'ai écrit aussi que pour un historien, pour un chercheur, il y a des différents exercices qui étaient nécessaires. Moi-même, j'ai fait de la synthèse. J'ai fait une histoire populaire de la France de 800 pages, qui est une synthèse. Donc je ne nie pas du tout, je ne m'enferme pas dans un... Même bien que je respecte beaucoup, c'est peut-être les gens que j'admire le plus, les chercheurs, j'appelle moi les savants purs. C'est-à-dire ceux qui sont dans leur recherche de vie, personne n'en entend jamais parler, mais c'est eux qui font finalement les travaux les plus... Moi, je suis pas dans cette logique. J'ai besoin d'intervenir dans le débat public. Donc j'ai besoin d'une collaboration avec les journalistes. Mais très souvent, c'est frustrant justement parce qu'on nous renvoie toujours à l'actualité du jour, à la petite phrase d'un tel, etc. Il y a une évolution de ce point de vue-là. Moi, je me rappelle dans les années 80, les petites phrases, c'était Le Pen. Hein, on disait la petite phrase, Le Pen, etc. Aujourd'hui, les petites phrases, c'est les réseaux sociaux. Donc il y a cette logique, et tous les jours, c'est alimenté. L'autre manière pour moi de répondre à la question que vous posiez, de l'honnête homme ou de la transmission d'un savoir, c'est la défense des enseignants, les enseignants qui jouent un rôle tout à fait fondamental. Et puis, ce que je fais, moi, par ailleurs, j'ai créé une association d'éducation populaire et je sillonne la France, comme ça, avec des artistes, pour essayer de transmettre, voilà, un message qui soit adapté aussi au code culturel des gens auxquels on s'adresse.
Bien sûr.
Parce qu'on va pas jouer les intellos, les profs à longueur de journée. C'est aussi un travail de transposition, de traduction, mais on reste fidèle parce que c'est le respect qu'on doit aux gens, à ce qu'on a étudié nous-mêmes, au savoir qu'on a produit. Donc, c'est tous ces éléments-là que j'ai essayé au fur et à mesure de briser pour satisfaire tous les points qu'on a abordés ici.
Vous l'avez évoqué avant votre livre sur Éric Zemmour, avant le livre que vous êtes en train d'écrire sur les races, vous aviez écrit une grosse histoire du populaire de la France, qui était une histoire du point de vue des dominés, du point de vue des milieux populaires, qui était dont l'angle était un parti pris, dans lequel la centralité de la question sociale était un élément très important. Est-ce que, quand on regarde le siècle écoulé, à quel moment cette question centrale a-t-elle vraiment été centrale? Et surtout, quand on regarde la situation d'aujourd'hui, on a à la fois une conflictualité, on l'a vu, entre les gilets jaunes, les retraites et divers mouvements qui reprend, et en même temps, un débat public sur lequel les questions d'identité sont celles qui enflamment le plus le débat public. Et donc, est-ce que aujourd'hui, cette centralité de la question sociale, elle est toujours là, ou est-ce qu'elle a été remplacée par la question identitaire ?
Gérard Noriel.
Alors là aussi, c'est compliqué. Nous, on récuse dans le livre ce débat question sociale contre question raciale, parce que pour nous, même les questions raciales, elles sont sociales quelque part, à partir du moment où on a une société et des individus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Puis après, alors, il y a le problème de la façon dont les gens s'auto-définissent, hein, dans la manière dont ils sont perçus par les autres et dont ils s'auto-définissent. Quand on travaille comme moi, en privilégiant à la base de la société, on essaye de comprendre chez les gens modestes, qui n'ont jamais voix au chapitre, qui n'ont jamais dans les médias, etc., comment ils ressentent, comment ils se défendent, quels outils ils vont utiliser. Il y a aujourd'hui, lié à notre histoire aussi, la colonisation, du post-colonialisme, etc., des gens aujourd'hui qui, pour défendre leur identité, pour défendre leurs intérêts, etc., vont s'emparer de ces questions-là. Donc nous, en tant que chercheurs, on ne juge pas, on ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien. On essaye d'expliquer le fonctionnement.
Vous prenez parti quand même.
On prend parti par rapport...
Au sens quasiment politique du terme.
Non, je ne crois pas, puisque si vous voulez, moi j'estime que... Bon, c'est pareil, c'est très difficile de résumer en 5 minutes, hein, mais ma démarche donc socio-historique, elle s'inspire. S'inspire de sociologues comme Norbert Elias, etc., ce qu'il appelait la société des individus. Donc, l'identité des personnes, elle est construite à partir de différents facteurs qui sont de l'ordre de la vie privée. Et le problème, c'est de savoir à quel moment, et là, on revient à ce que vous disiez, il y a des facteurs de l'identité qui sont mis dans l'espace public.
Exactement.
Voilà. Et selon les conjonctures historiques, on voit effectivement que ça change. Il y a la grande époque du mouvement ouvrier qui a mis en avant le facteur social. Mais c'était aussi de l'identité. Quand je dis la classe ouvrière, nous ouvriers, etc., on était aussi dans l'identité. Et aujourd'hui, lié à la crise du mouvement ouvrier, au déclin aussi, aux logiques médiatiques, etc., on voit effectivement qu'il y a un déplacement, le débat public.
Et pas seulement, parce qu'avant, il y avait un internationalisme qui a sans doute aujourd'hui disparu, justement, dans le discours ouvrier, par exemple.
Oui. Est-ce qu'il a été mis en œuvre vraiment? Je ne pense pas.
Oui, mais disons que la question derrière, c'est comment cette identité de classe, par exemple, de la classe ouvrière, permet un progrès, une lutte sociale, parce que justement, ça crée des solidarités. Je voulais vous interroger, d'ailleurs, c'est très lié, sur le discours d'Emmanuel Macron sur la République, qu'il a prononcé donc le 4 septembre.
Au Panthéon.
Et qui est, sa structure m'a frappé. C'est-à-dire que, bon, c'est un discours à des nouveaux naturalisés. Donc, il axe tout le début du discours sur l'idée que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui au Panthéon sont en fait venues d'ailleurs, ont enrichi la France, et en effet c'est je pense dans un discours de naturalisation une porte d'entrée évidente et essentielle. Mais derrière, et c'est ce que les journaux ont retenu, il parle du séparatisme, il dit il n'y a pas de place pour le séparatisme en République, sauf qu'à aucun moment n'intervient la question essentielle, qu'est-ce que c'est que la République ? C'est quoi exactement le peuple assemblé dans un espace public neutre qui permet à chacun de délibérer pour le bien commun, etc. Parce qu'il me semble que c'est finalement ça qui manque. Et ça rejoint ce que vous disiez sur la question de la politisation des débats. C'est-à-dire qu'il m'a semblé qu'on avait totalement oublié de rappeler ce qu'a été la République en France et ce qu'elle devrait être aujourd'hui pour se focaliser sur un intérêt immédiat. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'on rate la cible, parce que la seule façon de lutter contre le séparatisme, si on veut le faire, c'est tout simplement de refonder cet idéal républicain qui est politique, qui est démocratique.
Gérard Noriel.
Oui, bon, ça c'est un point de vue de citoyenne.
Oui, c'est mon point de vue,
voilà, en effet. Mais, historiquement, on constate que la République, elle a été mise un peu à toutes les sauces, que chacun a pu avoir sa définition, qu'elle a justifié la colonisation, vous savez bien. Donc, voilà,
moi ça, je me suis toujours... Oui, mais enfin ça, on peut le récuser, c'est pas le principe républicain, c'est
Après, on est dans les principes, voilà, donc, moi, si vous voulez, là, pour moi, ce qui est important, c'est de distinguer... Parce que c'est souvent confondu, et ça, en tant qu'historien, c'est très difficile à assumer, c'est la différence entre histoire et mémoire. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, ça fait déjà un certain temps, mais moi j'ai été très engagé en 2005 contre le moment des lois mémorielles. Vous savez, il y avait, voilà. Moi je disais, c'est pas aux historiens d'aller faire la loi sur la mémoire. C'est un problème de citoyens. C'est tous les citoyens qui sont engagés. On n'a pas le droit d'outrepasser, nous, notre rôle, nos fonctions. Nous, on est dans la recherche. On doit défendre l'autonomie. La recherche, c'est la loi républicaine. Notre métier a été créé par la République, justement. Les démocraties ont créé des historiens professionnels pour qu'ils produisent des connaissances qui ne soient pas un accompagnement de l'actualité, etc.
Oui, mais
etc.
Vous savez qu'on en fait des usages politiques.
Oui, oui, alors, mais ça, on le sait.
Les
chercheurs. Mais on le sait. Alors, pour
quand
la question raciale,
exemple,
encore plus, on sait que si on dit ça, on va nous mettre de ce côté. Si on dit ça, on mettra de l'autre côté. Que voulez-vous y faire?
Mais quand on fait écho au discours d'Emmanuel Macron, juste d'un mot, par exemple, lui définissait la République en disant qu'elle commençait bien avant la République elle-même, parce que ses valeurs, je le cite, sont enracinées dans notre histoire, aimer nos paysages, notre histoire, notre culture, en bloc toujours le sacre de Reims et la fête de la Fédération. C'est toujours cette référence à Marc Bloch qui revient, comme si pour être
joli
français,
cliché.
Oui,
enfin, c'est devenu
un lieu commun. Mais il fallait impérativement vibrer au sacre de Reims, et je mets d'ailleurs
au défi
Eric
Zemmour,
à part les historiens.
Bon, mais c'est, Zemmour le dit aussi dans un de ses livres, ça.
Oui.
La référence à Marc Bloch et au sacre de Reims. Oui. Mais on oublie, enfin, je veux bien parler de Marc Bloch, j'ai beaucoup travaillé sur Marc Bloch, c'est sans doute l'historien dont je me sens le plus proche historiquement dans la généalogie. Mais Marc Bloch a écrit deux bouquins en même temps pendant la Résistance. Hein. L'Apologie pour l'Histoire, qui traite de l'autonomie de la réflexion historique, et puis L'étrange défaite, qui est un livre de citoyens. Donc de citoyens engagés, voilà, républicains, au moment, alors là pour le coup, évidemment ça peut se comprendre, quand vous combattez les nazis, les armes à la main, que vous soyez engagés politiquement, mais il n'a jamais confondu les deux. Donc, citer Marc Bloch constamment, enfin je crois qu'il y a eu
tout le monde le fait, oui.
Oui, tout le monde le fait dans tous les sens, si vous voulez. Donc, voilà, moi je pense que là, Emmanuel Macron, il est dans son rôle de président. C'est de l'identitaire, quand il dit nous Français, nous Républicains, etc. Donc, bon, après, moi en tant que citoyen, j'ai un avis, hein. Mais vous m'avez pas invité pour que je donne mon avis de citoyen.
Non, en revanche, c'est intéressant de voir la façon dont vous percevez ces questions-là dans le débat public.
Alors justement, votre regard d'historien, vous êtes concentré dans votre travail d'historien moins sur les grands hommes que sur le grand peuple. Aujourd'hui, on l'évoquait dans la première partie de cette émission, on sent un peuple français qui est travaillé par de multiples crises depuis plusieurs années, et même à un rythme accéléré depuis 2008 jusqu'à la crise sanitaire et économique d'aujourd'hui, et qui, face à ces mutations, donne l'impression d'une forme de désarroi. Est-ce que ça fait écho dans votre regard d'historien à d'autres périodes que nous avons traversées?
Gérard Noriel.
Oui, ça fait écho pour moi à la fin du 19e siècle. Vous savez, Durkheim, justement, grand républicain, il parlait de névrose fin de siècle. C'est ce désarroi.
Névrose fin de siècle.
Il disait la névrose, voilà. Tellement il y avait ce sentiment de désarroi. Parce que c'est des périodes de mutations très importantes. À tous les niveaux. Moi, j'accorde une grande importance aux mutations technologiques. La fin du 19e, c'est la naissance de la presse de masse. Enfin, vous voyez, donc, l'intégration, justement, de l'ensemble des classes sociales au sein d'un espace public, même si toutes les classes n'ont pas au même accès, il y a une inégalité fondamentale, évidemment. Mais voilà, donc il y a des mutations qui... C'est la fin d'un premier mouvement ouvrier, celui qui avait été jusqu'à la Commune de Paris, qui était celui des petits artisans qualifiés, etc., dans les centres-villes et tout, pour passer au deuxième mouvement ouvrier, celui de la grande industrie, avec les mines à l'époque, Germinal, enfin, vous voyez. Et ça crée un profond désarroi. On est dans des périodes de mutation. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut dire qu'on est une période de mutation... qui crée ce désarroi. Mais
une
même
névrose
nous,
début de siècle, alors.
Une névrose début de siècle, voilà. Parce qu'on ne sait pas, ni les uns ni les autres. On a vu pour le Covid, par exemple, que même les... Moi, j'étais rassuré quelque part, parce qu'on nous dit toujours que les sciences sociales, c'est pas des vraies sciences.
Mais même
j'ai
les sciences que, dures.
Qu'ils étaient dans les mêmes conflits qu'on pouvait être, nous, dans nos métiers.
En tout cas, c'est passionnant. Merci Gérard Noiriel d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. On poursuivra la conversation parce qu'elle est importante. Natacha et Gilles, merci. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Marie Mériel, à la technique, Louis Audebert. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le commissaire européen Thierry Breton.